Europe 1, Philippe Googler.
Et loin, loin, nous le resterons, grâce à Jean Bernard, qui a tous les bons tuyaux pour profiter, pour aborder la Tunisie de la meilleure façon. Jean Bernard, comment vous abordez ce pays ? Par quoi on commence ?
Par la capitale, Tunis, figurez-vous.
C'est le plus facile.
Bah oui, allez, on commence à Tunis et on va s'immerger dans la Médina, la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité quand même.
Et qui est magnifique, et c'est marrant parce que quand on parle de la Tunisie, on parle rarement de Tunis.
Ah ben on a tort,
ouais.
Franchement, et je vais essayer de vous convaincre, Philippe et Nathalie, parce que autour de cette Médina, il y a les souks.
Oui.
Voilà, les fameux souks de Tunis.
Bah, surtout que maintenant on a appris à négocier.
Voilà, maintenant qu'on sait tout faire, on va aller faire un tour, on va se perdre dans les ruelles intimes de cette médina et de ces souks qui sont rassemblés autour de la grande mosquée, donc on ne peut pas les louper. Et moi, ce que j'adore, c'est que chaque souk a son ambiance, son odeur, ses couleurs, ses produits. Chaque rue de ces souks, les rues sont souvent couvertes, regroupe des artisans qui ont le même métier. Donc il y a une spécialisation, une concentration des savoir-faire. Donc vous n'avez pas de risque de vous perdre de type de produit. Vous savez combien il y avait d'artisans dans les souks de Tunis au 19e siècle ?
Non.
Rien pour vous donner une idée un petit peu de l'importance au niveau commercial. Il y avait 5000 boutiques et 9000 artisans.
9000
artisans et 5000
dans
boutiques.
Dans un même endroit.
Vous voyez un petit peu cet immense hypermarché que ça pouvait représenter. Alors, en flânant d'un souk à l'autre, on découvre des corps de métiers très différents, je l'ai dit, avec des ateliers, des échoppes qui sont restés dans leur jus. Quelques exemples, les tisserands, les parfumeurs, les tanneurs, les fabricants de chéchia, et puis même pour vous peut-être aussi, Philippe, ça peut vous intéresser, les fabricants de djellaba, pour revenir chez soi et se balader un petit peu.
Non, mais la chéchia, il faut quand même dire que c'est un chapeau, parce
c'est
que tout le monde ne sait pas.
C'est pas une chèche.
C'est un chapeau en feutre, et en laine feutrée.
Et les fabricants de babouches aussi, pour vous, éventuellement, des babouches,
oui,
c'est
pas mal. Oui.
Chaussons de cuir, qu'on aime
pas,
bien.
Il vous met vous en babouche et moi en djellaba, je sais pas pourquoi.
Moi, je préférais qu'il m'aurait donné une tenue toute en broderie dorée, j'aurais préféré.
Mais oui.
Je vous achète ça la prochaine fois, Nathalie, c'est promis. Alors, mon préféré, c'est le souk El Atarin. C'est le souk des parfumeurs, parce qu'il y a vraiment des odeurs, absolument des fragrances inimaginables, des subtiles essences, on craque à coup sûr. Il y a des comptoirs en bois. Alors, derrière le comptoir, il y a le vendeur. Il vous fait comparer les fragrances, le rose, l'orange, le jasmin, l'ambre, le musc. On se fait expliquer tout ça. Et puis, si on veut, on demande au parfumeur de nous concocter un mélange sur mesure. Et puis après,
ah ouais, on peut faire du parfum sur mesure.
Ah, oui, sur mesure. Donc, ça, c'est génial, bien sûr, d'avoir
puis
vraiment.
Après, vous l'appelez Chanel numéro 24.
Et puis bien sûr, pour terminer sa petite séquence shopping dans le souk, on se fait une petite pause hein, quand même pour boire un kawa à la fleur d'oranger ou alors une citronnade aux amandes. Un vrai art de vivre, Nathalie.
Ça, oui, vous avez dû pratiquer. Un arrois.
Ça fait envie.
Non mais je peux juste dire un truc, c'est que vraiment les souks, c'est pas du tout que pour les touristes, vraiment loin
non,
de là.
Non, surtout
et
pas.
En plus, en ce moment, comme la Tunisie est vraiment en plein changement, il y a beaucoup de designers, beaucoup de stylistes qui vont s'inspirer des costumes traditionnels, comme l'avait fait à une époque Hasdin Alaya quand même, qui avait fait là une robe de Lady Gaga en s'inspirant de ce qu'il avait trouvé dans les souks de son propre pays.
C'est une immersion incontournable, il faut le faire.
Alors pas très loin de Tunis, vraiment juste à côté, c'est 15-20
km. Ouais,
la petite pépite, il y a Sidi Bou Saïd que j'aime beaucoup.
Ah bah moi aussi, on a la même passion, Philippe, évidemment, Sidi Bou Saïd, superbe petit village. Et ça vous plaît aussi, je sais pourquoi, parce qu'on s'y rend en TGM. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce TGM, Philippe.
Le TGM, c'est une sorte de petit train qui est mi-tram, mi-train.
Ouais, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est un jouet.
Et qui a une histoire assez étonnante, c'était le bey de Tunis autrefois, hein, c'est un peu le roi de Tunis si on veut, qui avait voulu ce petit train, il considérait ça un petit peu comme un jouet, pour aller dans ses différents palais, au Bardo, à la Goulette, à la Marsa, qui était aux alentours de Tunis. Et puis, la ligne est restée et c'est devenu un transport populaire.
C'est génial et toutes les gares sont très mignonnes en plus.
Voilà. Et donc on descend à la gare de Sidi Bou Saïd, on descend ici et qu'est-ce qu'on voit ? Une vue splendide sur la Méditerranée et le golfe de Tunis, parce que Sidi Bou Saïd est sur une falaise, un village perché. Donc le plaisir, c'est de déambuler dans les ruelles. Il y a un incroyable mélange de couleurs. Vous imaginez les maisons avec des façades qui sont blanchies à la chaux, d'un blanc immaculé, éclatant. Et les portes et les persiennes, elles, sont d'un bleu profond, comme les moucharabiais d'ailleurs. Les moucharabiais, c'est les balcons qui sont entourés d'une cage en bois, ce qui permet de voir sans être vu. Ils sont peints en bleu, donc vous avez des couleurs bleues, blanches. Et les bougainvillées qui apportent une petite tonalité magenta. Vous imaginez un petit peu. Donc si vous aimez faire des belles photos, vous serez heureux là-bas. Puis après la balade à Sidi Bou Saïd, qu'est-ce qu'on fait, Philippe ? Là aussi, je sais que vous l'avez pratiqué, on en a parlé. Café des délices, boire un thé à la menthe.
Avec des pignons.
Avec des pignons.
Et vous êtes sûr que je vais trouver Patrick Bruel installé avec un thé à la menthe, hein, vous me le promettez.
Mais oui, et devant une vue magnifique. Ouais. La vue est très belle. Non, mais
c'est
le café
sublime, c'est un incontournable.
Ça donne sur une belle, la grande baie de Tunis. Ouais. Là, c'est
un
très
moment
beau
à partager, ça.
Alors, il y a une facette balnéaire, évidemment, en Tunisie, parce qu'on a beaucoup parlé de Djerba tout à l'heure. Mais il n'y a pas que Djerba.
Ben justement, on est tous obsédés par Djerba, parce que c'est un petit peu la principale attraction balnéaire de ce pays. Mais en fait, la côte tunisienne, et Nathalie, je sais que vous la connaissez bien, parce qu'elle n'a rien à envier aux côtes françaises. 1250 km, donc vous imaginez un petit peu les plages qu'on peut trouver. Et ben moi, j'aime bien Tabarka. Une superbe station balnéaire à taille humaine, il y a une dizaine d'hôtels seulement, c'est à la différence d'Hammamet où il y a beaucoup plus d'hôtels club. Là on est vraiment dans une physionomie qui est assez réduite, c'est entre mer et montagne, il y a des plages de sable blanc, des éperons rocheux, des forêts de pins, des chênes-lièges, le petit fort génois qui va bien juste au-dessus de la baie de Tabarka, perché sur une colline qui lui donne un certain cachet. Moi j'adore ça, puis un petit air de Corse aussi, extérieur pays, on ne sait pas trop où on est, mais on est à Tabarka.
On est à la frontière algérienne.
Oui, on est à la frontière algérienne, exactement.
C'est votre coin préféré aussi, Nathalie ?
Moi, le Tabarka, j'adore, et puis il y a un magnifique festival, croise les doigts pour qu'il reprenne un jour, c'est le festival de jazz en extérieur qui est sublime. C'est vraiment un coin magnifique, Tabarka, c'est très... Effectivement, ça commence à se développer, mais c'est vraiment un endroit très très beau.
Et Philippe, vous savez qu'était mon premier contact avec Tabarka ? J'y suis pas allé pour les hôtels et la plage, en fait. J'y suis allé pour le Grand Bleu, pour voir ce qu'il y a sous l'eau à Tabarka. Parce que Tabarka, c'est la capitale du corail rouge. Il y a une longue tradition depuis des siècles de travailler, de récolter le corail rouge, donc sous l'eau, et d'en faire des bijoux, un artisanat lié aux bijoux. On trouve toujours quelques bijouteries à Tabarka. Et quand on plonge à Tabarka, on peut voir, il faut aller assez profond parce qu'il y en a de moins en moins. Mais ce corail rouge, c'est vraiment la grande spécialité sous-marine de cette station balnéaire.
Oui, parce que c'est pas l'endroit le plus réputé pour la plongée en Méditerranée.
Non,
quand
mais
même.
En revanche, pour le corail rouge, on voit vraiment c'est vraiment superbe.
J'ai une question plongée, parce que je sais que c'est un grand plongeur, Jean-Bernard, mais je croyais que quand on sort, justement, il ne fallait pas toucher les coraux, parce que quand on les sort, ils sont blancs.
Alors, pas le corail rouge, justement. Lui, cette spécificité-là. Il garde sa couleur, il garde sa tonalité.
Ah ouais, génial.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je préfère le désert. Je préfère le sud.
Ah non, mais c'est pas ça. C'est pas poire ou fromage.
C'est les deux, c'est Philippe. Les deux. Mais bien sûr.
J'ai grave... Le sud tunisien, ouais, là, quand on sent qu'on approche du désert, comme ça. Et puis, il y a ce lac salé, là, le Chott El Djerid, qui arrive avec ses... Vous avez l'impression que c'est la banquise quand il est asséché, parce qu'il a laissé du sel sur le sol et tout est blanc à l'infini. C'est très très beau, plus les mirages qui existent vraiment.
Quand on roule,
est-ce que vous savez que justement c'est là, dans ce secteur de Tozer, dans le Chott El Djerid, qu'on a tourné les scènes de Star Wars, près de Matmata. Parce que le sol est percé de cratères, c'était en fait des habitations il y a très longtemps. Les habitants vivaient dans ces chambres souterraines et c'est peut-être dans ce coin-là que vous allez retrouver toutes les scènes où ont été tournées. Vous y croiserez peut-être les fantômes de Dark Vador, de Luke Skywalker, de R2-D2. Il y a même des agences à Tozer qui emmènent les touristes visiter les principaux lieux de tournage de Star Wars.
Donc vous m'avez promis que j'allais rencontrer Patrick Bruel et là vous me promettez que j'allais rencontrer Luke Skywalker.
Oui, vous le verrez. Ouais.
C'est ça, d'accord.
En fait, vous êtes la princesse Leïla, Nathalie.
Bien sûr.